C'est une belle et grande histoire. Racontée qu'une seule fois, Matthieu. Donc, au chapitre 2, verset 1er. Parole du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes, donc les hommes de la religion, qui en connaissent un rayon, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » On ne peut pas trouver plus hypocrite. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, à l'enfant, et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Dieu s'occupe de nous quand même. Il a protégé l'enfant Jésus en disant aux mages, vous prendrez la troisième à gauche parce que à droite, il y a le roi qui menace. Que signifie épiphanie? C'est un mot biblique que j'ai trouvé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Cela signifie manifestation. La manifestation du Seigneur. Je crois que la plupart des gens qui vont manger la galette aujourd'hui ignorent complètement le mot. Autrefois, quand un roi arrivait dans un pays, un empereur arrivait dans une ville, on disait « c'est l'épiphanie de l'empereur ». Si le président de la République arrivait à Rennes aujourd'hui, c'est l'épiphanie du président de la République. Ça veut dire l'arrivée, la manifestation. Vous savez que pendant 3 siècles, on fêtait Noël à l'épiphanie, juste avant les soldes. On ne fêtait pas Noël le 25 décembre, c'est plus tard, au 4e siècle, qu'on a commencé à penser au solstice. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Alors que s'est-il passé dans cette manifestation de Dieu? Parce que ce n'est pas seulement que le 5 janvier, c'est, je crois que ça montre l'incarnation de Dieu sur la terre. Dieu s'est manifesté en homme. Dieu a fait signe aux habitants de l'Orient, pas l'Orient en Bretagne, de l'Orient, l'Irak, l'Iran, je ne sais pas où, il leur a fait un signe en leur montrant une étoile qui marchait dans le ciel. Et je pense que beaucoup l'ont vu. Si un l'a vu, d'autres pouvaient la voir. Donc ils ont vu dans le ciel une étoile qui se déplaçait. Seuls les mages, qui étaient des savants, des sages, qui étaient souvent autour des rois à l'époque, c'était les gens, les intellectuels, seuls les mages ont été attentifs. Et ils ont vu ce signe dans le ciel, cette étoile qui bougeait, qui marchait. Seules les mages ont été disponibles. Et ils ont compris qu'il y avait un événement très important qui se passait. Un événement important en Judée, en Israël, la naissance d'un enfant qui était le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Pour eux, c'est un événement considérable. C'est un événement mondial. Parce qu'ils viennent pour l'adorer, le ciel se met en mouvement, les étoiles bougent, donc il y a quelque chose de grand qui se prépare pour la petite terre, notre monde, et ils se mettent en marche pour l'adorer. Pas seulement lui donner un petit cadeau, l'adorer ça veut dire l'aimer, se prosterner devant lui et lui soumettre toute leur vie. Ils ont fait le choix de partir avec l'étoile. Ils auraient pu envoyer des messagers, des serviteurs, des valets. Ils auraient pu envoyer des gens tout simples pour dire « prenez des informations, puis vous reviendrez nous dire ce qui s'est passé ». Ils y sont allés d'eux-mêmes. Ils auraient pu avoir peur d'un tel voyage, un voyage qui a sûrement dû durer des semaines. Ils auraient pu avoir peur de perdre leur temps, leur vie. Pourquoi ? Pour voir un enfant. Mais tous les enfants sont des enfants. Ils ne savent même pas où ils vont aller. Un roi des Juifs, mais les Juifs sont partout. Ils sont en Égypte, ils sont en Grèce, ils sont en Irak, ils sont partout les Juifs à l'époque. Ils sont en train de refaire le voyage comme Abraham. Ils viennent du pays d'Irak, là. Et ils vont vers Israël, ils font le voyage avec, je dirais, quasiment la même confiance dans une étoile qui est comme un signe de Dieu. C'est aussi notre voyage. Nous aussi, nous devons faire un voyage vers Dieu. Pas au dernier jour, mais aujourd'hui, la vie, c'est un voyage vers Dieu. Ils auraient pu hésiter. Moi, je ne sais pas si je serais parti comme ça. Oh, à l'époque, il n'y avait aucune sécurité. Il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. Ils auraient pu hésiter et ils auraient pu manquer le rendez-vous parce que l'étoile, elle avançait. Hein. Et la vie, elle avance aussi. Et le rendez-vous avec Dieu avance aussi. Et il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Donc, ils ont fait confiance à l'étoile qui, pour eux, en tant que astronome, en tant que scientifique, pour eux, cette étoile représentait un événement qui dépassait l'être humain. Dites donc, quand vous êtes né, est-ce que les étoiles ont dansé dans le ciel? Chaque fois qu'un enfant naît, le ciel ne bouge pas. Mais dans le ciel, il y a de la joie. Amen. Et voilà qu'en cours de route, ils vont perdre l'étoile de vue, l'étoile, ils ne vont plus la retrouver. Ils vont faire toute la route sans voir l'étoile, ils vont simplement au radar dans la direction de la terre de Judée, dans l'inconnu. Et l'étoile qu'ils ont vue en Orient, ils vont la retrouver en arrivant à Jérusalem. Vous voyez leur confiance quand même ? Ils croient ce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous aussi, nous croyons ce que nous ne comprenons pas toujours. D'abord nous croyons, ensuite nous comprendrons. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je crois sans comprendre. Souvent, nous voulons tout comprendre, tout mesurer, tout analyser. Mais comment voulez-vous mesurer Dieu ? Comment voulez-vous analyser le grand créateur du monde et de la terre et de tout ce qu'elle contient ? Il nous faut faire confiance à quelqu'un qui, de toutes les façons, dès le commencement, nous a déclaré qu'il nous aimait d'un amour éternel. J'ai toujours pensé qu'un amour éternel voulait dire qu'on serait éternel. Parce que si Dieu nous aime toujours, eh bien, on ne mourra jamais. On sera toujours avec lui. Je vous pose une question. Voyons-nous les signes de Dieu ? Voilà. Voyons-nous tout ce qui est fait pour nous mettre en route vers Dieu, comme l'étoile, vous ne verrez pas les étoiles. Enfin, vous les regarderez, mais ce n'est pas elles qui vont vous donner la direction. Il y a dans notre vie des signes. Et moi, je pense à notre fragilité. Je pense que notre fragilité est un signe qu'on a besoin de plus fort que nous. Et qu'on a besoin du Seigneur qui veille sur nos départs et nos arrivées. Et qui chaque jour est avec nous. Je pense que la mort est un signe. Je vais mourir un jour et à cause de cela, je dois comprendre où je vais, me réconcilier avec Dieu. Je dois mettre mes mains dans ses mains aujourd'hui, pendant que je peux dire aujourd'hui, pendant que j'en ai le temps. Ça sont des signes, des appels, des paroles de Dieu. Je pense aussi aux événements de la vie qui nous bousculent parfois. Je pense qu'à travers tout cela, Dieu veut nous dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Et puis je pense que les signes, c'est aussi la parole du Christ qui nous a dit « Quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes. » Quelle chose ! Déferlement des événements sur la terre, la montée des eaux, le débordement de tout ce que nous voyons, de toutes les guerres. Quand vous verrez ces choses arriver, ne baissez pas la tête, ne soyez pas pessimiste. Relevez la tête, votre délivrance approche. Donc, épiphanie veut dire manifestation. Autour, manifestation autour, manifeste. Et pour se manifester, Dieu convoque les astres, les savants, le roi, les religieux, le peuple. Mais dites-moi, est-ce qu'il ne vous convoque pas aujourd'hui ? Est-ce que l'histoire de Dieu, c'est une histoire de musée, de cire, comme le musée Grévin à Paris ? Est-ce que l'histoire de Dieu ne nous concerne pas ? Nous qui sommes fragiles, mortels, vulnérables, ça nous concerne. Dieu est notre seul port d'attache. Les mages arrivent à Jérusalem. Ils ont perdu la trace de l'étoile depuis peut-être des jours et des jours. Ils savent que Jérusalem, c'est la capitale, donc ils arrivent là, ils n'ont pas de direction. Où vont-ils aller? Dans quelle rue? Dans quel village? Dans quel faubourg? Il fallait qu'ils passent par Jérusalem. Parce qu'il fallait qu'ils entendent l'Écriture. En effet, les religieux ont pris leur Bible. Ils ont dit le Christ, où il doit naître, le roi des Juifs, à Bethléem. Car il est écrit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les villes de Juda. » Ils vont citer le prophète Michée. Pour découvrir le Christ, il faut lire la Bible. Il faut écouter la parole de Dieu. On ne peut pas aller au Christ sans passer d'abord par l'Écriture. Et les religieux vont citer un verset, mais pardonnez-moi, ils vont le citer très mal. Ils vont le déformer. Peut-être qu'ils l'ont cité de mémoire. Parfois, nous aussi, on cite des versets de mémoire et on les déforme un peu. Et ils l'ont complètement déformé. Bon, enfin, l'essentiel, c'est qu'ils ont compris l'essentiel, c'est qu'il naîtra à Bethléem un chef qui va diriger le peuple de Dieu et le monde entier. Bethléem, là, tout près de Jérusalem. Voici ce qu'a dit les prophètes. C'est ce « il est écrit » qui permet de dire « attention, Dieu nous parle ». Et si Dieu nous parle, c'est ainsi que nous allons découvrir qui est Jésus, pourquoi il est venu. Les scribes, les religieux qui ont lu ce texte, vous avez bien lu avec moi, ils ne sont pas allés à Bethléem. Ils ont dit, allez-y, ils n'y croyaient pas. Ils avaient la Bible, mais ils ne croyaient pas. Sinon, ils y seraient allés. Les mages n'ont pas la Bible, mais ils ont la foi. Comme le monde est compliqué. Et les mages sont allés sans la Bible. Et ceux qui avaient la Bible n'y sont pas allés. Dites donc, comme c'est compliqué la vie. Le plus beau, c'est d'avoir la Bible et la foi. Amen. Mais de toute façon, la Bible donne la foi. Tout ce que nous croyons vient de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce qui est étonnant dans cette histoire, il y a beaucoup de choses étonnantes, hein, c'est qu'en sortant de Jérusalem, avec certainement leurs chameaux, entre parenthèses, je ne sais pas s'ils étaient trois, moi, peut-être qu'ils étaient 12, 15, 30. On a du mal à avoir 30 mages, non ? Qui rentrent dans la maison. Ils ne sont pas rentrés dans la crèche. Jésus là, était déjà revenu dans une maison. Ils avaient dû louer, les parents avaient dû louer une maison pour que Marie se repose un peu. Et puis, il y avait la présentation au temple. Donc, ils ont trouvé la maison. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'étoile, elle s'est mise en marche et elle s'est arrêtée sur la maison. Je vais vous dire quelque chose. Hier soir, j'ai vu une étoile au-dessus de ma maison. Vous n'avez pas vu l'étoile qui était au-dessus de ma maison ? Si elle était au-dessus de ma maison, je vais vous le dire, elle était aussi au-dessus de votre maison. Elle était au-dessus des maisons de Berlin et de Barcelone, non ? Vous savez, de partout, on voit la même étoile. C'est tellement haut. Alors comment les mages comment l'évangéliste Matthieu a pu écrire « L'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison ?» J'ai toujours pensé que l'étoile était toute proche. Et que l'étoile, parce qu'il n'est pas dit qu'il faisait nuit, hein, ils n'ont pas trouvé Marie au lit avec Joseph et le petit entre les deux. J'ai toujours pensé que l'étoile était visible de jour, comme certaines comètes, n'est-ce pas, qui sont passées près de la Terre, enfin encore assez loin, et qu'on voyait de jour. Elle était visible de jour, elle n'était pas loin, et l'étoile marchait et elle s'est arrêtée pile au-dessus, là, du 110 A boulevard, enfin, je ne sais pas si c'est... Enfin, sur une maison. Mais les habitants de Jérusalem, ils ont dû voir l'étoile, non ? Il y a bien quelques bergers, quelques paysans dans les champs qui ont dû dire, mais qui c'est ce point lumineux qui se déplace vers Bethléem ? Personne ne s'est mis en route. Dieu n'impose rien. Il se manifeste sans s'imposer, sans nous contraindre. Ce n'était pas une lumière grosse comme 40 soleils. Ça devait être un petit point lumineux qui se déplaçait dans le ciel, mais qui pouvait être vu. Dieu est discret. Dieu ne contraint personne. Personne ne peut dire « je crois, mais je n'ai pas pu faire autrement ». Si nous croyons, c'est parce que nous avons mis notre bonne volonté pour accueillir Jésus, notre foi. À ceux qui cherchent le Seigneur, Dieu n'est pas loin. Dieu est au-dessus de leur maison. Dieu s'arrêtera et ils le verront. Ceux qui cherchent le Seigneur. Ils ont frappé à la porte. Ils sont entrés dans la maison où était Marie. On n'est pas parlé de Joseph, je ne sais plus, je ne crois pas. Il y avait Marie qui était là avec l'enfant. Peut-être qu'elle était en train de faire ses langes, ses couches. Ils ont découvert un bébé. Ils sont arrivés et là, ils ont vu la manifestation, l'épiphanie de Dieu. Dieu s'est manifesté comme un bébé. Vous comprenez ? Pas très bien. Hein ? L'accès à notre salut est tout près de nous. La porte du salut est à notre porte, accessible. Mais je pense à Jésus qui disait « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Si vous, comme vous me voyez, Dieu, c'est comme ça. Mais je me suis posé la question, mais l'enfant Jésus devant les mages, là, est-ce que cet enfant, ce bébé, il a le visage de Dieu ? Est-ce que Dieu a le visage d'un bébé ? Eh bien, je crois que l'enfant de la maison de Bethléem, là, c'est l'image de Dieu. Ça représente Dieu. Dieu qui s'humilie, Dieu qui s'abaisse, Dieu qui est proche, Dieu qui est accessible. Ce visage de l'enfant Jésus, c'est celui de Dieu. Un visage offert à nos regards, offert à nos paroles, offert à nos réactions, offert à nos blessures, offert à tous nos coups. Un visage exposé à tous les mauvais coups, à tous les mauvais coups des êtres humains. C'est Dieu qui est là et est fragile, vulnérable. On peut le casser, on peut le bousculer. Dieu avait dit à David, il y a très longtemps avant, « Pour toujours, j'établirai un enfant de ta famille comme roi. » Un enfant de ta famille. L'épiphanie, c'est ça. Dieu se manifeste à Noël, Dieu se manifeste à la croix, Dieu se manifeste dans son amour. À la résurrection, Dieu se manifeste, ce ne sont que des épiphanies. Quand le Seigneur reviendra du ciel, le mot est dans la Bible, clairement, ce sera une épiphanie, une apparition, une manifestation. Un certain dimanche 3 septembre, Dieu est entré dans ma vie, c'était une épiphanie, sans la galette, une apparition comme une manifestation de Dieu. Pour chacun de nous, le Seigneur se manifeste, amen. Ce n'est pas qu'un jour seulement. Il offre sa vie, il offre son visage au risque de recevoir nos refus. L'épiphanie, c'est l'événement de la rencontre de Dieu avec nous. Je vais vous dire quelque chose, l'épiphanie, c'est tous les jours. Dieu se manifeste à nous tous les jours. Et vous pouvez manger des gâteaux tous les jours aussi, si vous voulez. La Bible est une épiphanie. La Bible, c'est une manifestation de Dieu, c'est une révélation de Dieu qui nous montre ce que Dieu fait, qui nous montre une parole de pardon à recevoir dans nos vies. La Bible, c'est Dieu qui se manifeste. Quand je lis la Bible, Dieu me saisit, Dieu me parle, Dieu me rassure, Dieu m'éveille. Dieu se manifeste. Oh, un enfant, 40 centimètres. Mesdames, vous avez eu des enfants ? Vous aurez des enfants. Un enfant sans pouvoir, un enfant sans armes, un enfant sans potion magique, comme Obélix. Un enfant sans pouvoir, mais c'est un Dieu tout-puissant qui se montre là. Un Dieu tout-puissant dans l'amour. Et je pense que l'Église, pendant des siècles, elle a confessé, à l'époque on ne savait pas lire, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien dans tout le Moyen-Âge. L'Église répétait toujours « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. » Pendant des siècles, l'Église a répété ces choses-là, parce que c'est la vérité. Et Dieu est tout-puissant dans son amour. Parce que si c'était pour nous une toute-puissance dans la force qui casse tout comme la tempête, j'aurais peur de Dieu. Mais c'est une puissance dans l'amour. Il fait les plus grandes choses, c'est dans l'amour. Les mages ont reconnu cette manifestation de Dieu. Magnifique, bravo. Dans la petite maternité de Bethléem, là, ils ont vu Marie et l'enfant et ils ont reconnu que Dieu s'était manifesté, ils se sont prosternés. Ils n'ont pas dit « Oh, ben, ce n'est qu'un petit gamin ». Non, non, ils sont prosternés. Ils ont offert de l'or. En général, on offrait de l'or, même pas aux dames. On offrait de l'or au roi. C'est le roi qui a l'or. Normal, non ? Enfin, presque normal. On offrait de l'or au roi. Mais il sera roi, ce petit enfant. Et le roi des rois, et le roi du monde. Et ils ont offert de l'encens. Des plantes qui se consument, qui brûlent, qui donnent un parfum. Et l'encens, c'était réservé aux sacrificateurs du temple pour prier. Ils priaient avec l'encens. Et le Christ, eh bien, il va être celui qui va prier pour nous sans cesse. Ce petit enfant dans ses langes, là, il sera le pont, le médiateur, l'intermédiaire entre nous et le grand Dieu du ciel. Ils ont bien fait les mages, bravo. De l'or parce qu'il sera roi, oui. De l'encens parce qu'il sera notre intercesseur, notre intermédiaire. Et puis ils vont faire de la myrrhe. Ah. La myrrhe, c'est un parfum de feuilles, de... Et ce parfum, on le mettait que sur les mœurs. Quelle idée quand même d'offrir de la myrrhe à un bébé. Mais ce bébé est venu pour mourir. Ce bébé, il est venu pour offrir sa vie. Et la myrrhe représente la mort que le Seigneur va vaincre et dominer dans sa résurrection. Bravo les mages. Vous avez été nickel là. L'heure, l'encens, la myrrhe, exactement ce qu'il fallait, parce qu'il est roi, parce qu'il est notre intermédiaire, parce qu'il est notre, le sacrifice de nos, pour notre vie. Amen. Mettons-nous en marche, mes amis. Que le Seigneur nous conduise vers lui. Amen. Que Dieu nous attire. Il y a une petite lumière qui n'arrête pas de briller vers moi. Elle frappe ma rétine avec une force incroyable. C'est la lumière qui brille un peu là. Eh bien, l'étoile de Noël était beaucoup plus faible que ça. C'était un petit signe qu'il fallait distinguer. Et si vous distinguez bien, vous verrez dans votre vie beaucoup de petits miracles. Et si vous écoutez le murmure subtil et doux de la Bible, vous entendrez la voix du Seigneur qui dit « Je suis avec toi tous les jours. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas. Je suis ton Dieu qui te fortifie. Je prendrai soin de tes enfants. » Amen. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. C'est un signe. Amen. Je prie le Seigneur avec vous, mes amis. Je l'invoque. Et si nous l'invoquons, nous recevrons sa bénédiction. Seigneur, nous te prions parce que nous voulons aussi nous mettre en marche vers toi, car la vie éternelle, c'est te rencontrer, c'est se confier notre existence avec tout ce qu'elle a de difficile, de lumineux et de ténébreux, c'est nous te confier notre existence pour ce temps et pour toute l'éternité, te faire confiance pour ce grand passage de la vie, ce grand passage de la mort, sachant que tu es la résurrection, tu es la vie, et tu ne nous abandonneras jamais. Nous te confions ainsi, Seigneur, notre existence en ce début d'année. Nous voulons nous prosterner aussi comme ces mages d'Orient, nous prosterner devant toi et reconnaître que tu t'es manifesté au monde, tu t'es montré, tu t'es fait entendre. Ta voix n'était pas cachée, tu as parlé clairement, tu n'as pas caché la parole, la vérité, tu as dit et nous avons entendu et nous avons cru. Seigneur, à quel eau tirions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru que tu étais sorti de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Restons quelques instants devant le Seigneur en prière. Parce que je pense que seul le Seigneur connaît notre année, évidemment. Ce n'est pas écrit dans les étoiles, pardonnez-moi ce jeu de mots. Les étoiles ne peuvent rien faire pour notre destinée. Seul Dieu qui marche à nos côtés connaît, mais il n'est surpris de rien. Et c'est qui demain peut-être peut nous surprendre, ne le surprendra pas. Il aura prévu des temps de repos, des consolations, un salut. Il nous enverra le salut du ciel. Nous aurons peut-être des difficultés avec les gens, peut-être aussi des inquiétudes face au monde et à toute la méchanceté qui se déchaîne. Mais Dieu nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, il se manifestera. L'épiphanie, c'est toute l'histoire de Dieu. Dieu n'est pas caché, il se manifeste, il se rend visible, audible. Dieu est avec vous, mes frères et sœurs. Je prie pour les malades au milieu de nous. Je prie pour ceux qui cherchent leur chemin. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sont loin, loin de leur véritable repos. Seigneur, étends ta main sur les malades au milieu de nous. Étends ta main sur ceux qui cherchent la direction pour leur vie, leur travail, leur famille. Ceux qui ont besoin d'un secours parce que on les a blessés, on les a jetés à terre. Je te prie pour ceux qui, dans leur conscience, sont malheureux parce qu'ils ont péché contre toi et contre les autres. Je te prie parce que tu es notre paix. notre réparateur, notre consolateur. Tu es notre Père, notre ami fidèle et tendre. Merci de veiller sur nous dans ces temps et dans toute la suite. Amen.